Nous avons mentionné à plusieurs reprises ce matin dans nos louanges et dans nos chants la fidélité de Dieu, qu'on peut lui faire confiance. Non seulement il veut, mais il peut tout. Quand quelqu'un vous fait une promesse, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais à plusieurs reprises, et qu'il ne tient pas promesse, il ne tient pas parole, il n'accomplit pas ce qu'il a dit, comment vous vous sentez? Peut-être de la frustration, de la colère, de la déception. Et quand ça arrive à répétition, on finit par perdre confiance en la personne. Et quand ça fait plusieurs personnes qui s'engagent envers nous, qui ne tiennent pas parole, on peut finir par perdre confiance de manière générale. Les gens deviennent cyniques face à la politique ou à tout autre domaine où on entend toutes sortes de promesses, mais parfois, lorsqu'on est entouré, on a été blessé à répétition, on peut finir par ne plus croire aucune promesse. On veut seulement croire lorsqu'on le voit. Et les gens viennent dans un état où ils perdent tout espoir et certains sont dans la dépression, mais ils ne croient plus aux promesses de la vie, promesses de bonheur de la société. Ils peuvent même avoir des idées suicidaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui on peut être sûr que lorsqu'il nous dit quelque chose, il va l'accomplir? Mais la Bible nous dit que c'est Dieu. C'est le seul qui non seulement, lorsqu'il promet quelque chose, il veut le tenir, il ne va pas changer d'idée, mais en plus, il peut tout faire. On peut lui faire confiance. Et la Bible sert justement à nous révéler qui est Dieu. La Bible a été écrite dans cette intention-là, de nous révéler qui est Dieu et comment Dieu interagit avec nous, interagit avec sa créature, comment il interagit avec l'homme. Et un des traits de caractère de Dieu que l'on voit un peu partout dans la Bible, c'est sa fidélité à tenir ses engagements, sa fidélité à tenir ses promesses. Il est un Dieu de parole et d'action aussi, mais il tient parole. Il est fidèle à ses promesses. Et on le voit particulièrement dans le passage qu'on étudie ce matin. On commence l'étude du livre d'Exode dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de la Bible, le deuxième livre d'une série de cinq qu'on appelle le Pentateuque. L'histoire d'Exode se déroule un peu plus de trois siècles après la fin de Genèse, mais l'histoire, elle est vraiment suivie. C'est une suite directe du récit de Genèse. D'ailleurs, même lorsqu'on lit dans la version originale en hébreu, ça commence par « et », le mot « et », dans le sens de « et ensuite », « et puis ». C'est comme une suite directe de Genèse. Et il y a plusieurs indices aussi qui nous montrent que l'auteur voulait vraiment présenter Exode comme étant une suite du récit. Et le texte nous laisse conclure que c'est Moïse qui l'a écrit, et on n'a aucune raison de douter que ce soit Moïse. Donc, nous croyons que c'est le prophète Moïse, celui dont même Exode parle, mais c'est lui-même qui l'a écrit, dirigé par l'Esprit de Dieu, et qui a écrit aussi la Genèse et tout le Pentateuque. D'ailleurs, Jésus lui-même le confirme dans les Évangiles, lorsqu'il cite l'Exode, il dit « Voici ce que Moïse a dit ». C'est les paroles de Moïse. On peut faire confiance à Jésus. Le mot « Exode » signifie « la sortie ». Ça provient... À l'origine, il n'y avait pas de titre au livre d'Exode. C'est la première traduction en grec qui est... auquel le titre avait été donné, on l'a conservé en français et dans plusieurs langues aussi. C'est la sortie parce que c'est l'histoire du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte et qui sort d'Égypte. C'est vraiment leur exode d'Égypte vers la terre promise. Je vous invite à tourner, sans plus attendre, dans Exode, chapitre 1, à partir du verset 1. Exode 1:1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zébulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Et les Israélites furent féconds. Ils proliférèrent et se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Le pays en fut rempli. Mais plus tard, un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. » Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, Il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le peuple, qu'il bâtit pour le pharaon les villes d'approvisionnement de Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait et plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail, avec l'argile, les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, elle pourra vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? » Et les sages-femmes répondirent au pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant même l'arrivée de la sage-femme. » Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Et parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais on voit ensuite que le pharaon n'en est pas resté là, mais ça va être pour une prochaine semaine. On peut voir ici, ça concerne vraiment le peuple d'Israël qui est né, comme on pourrait dire, en Égypte et qui a grandi. Mais on voit derrière toute cette trame-là, on voit Dieu qui révèle sa personne. Et ce qu'il révèle à propos de lui, c'est qu'il est fidèle à ses promesses. Il accomplit ses promesses. Même si ce n'est pas toujours dit textuellement, Dieu fit ceci, on le voit qu'il est en arrière-plan. Et c'est à cause de sa fidélité que tout cela arrive. Et on peut voir trois aspects de la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. C'est qu'il accomplit premièrement ses promesses, on le voit même après la mort de ceux à qui il avait donné ses promesses. Même au-delà de leur vie, il continue à accomplir ses promesses. Et il accomplit deuxièmement ses promesses malgré l'opposition. Et parfois une opposition indirecte, parfois une opposition directe. Mais Dieu, ça ne l'empêche pas, rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Et on voit aussi que Dieu bénit ceux qui le craignent et qui agissent et qui contribuent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire que Dieu tient ses promesses même après la mort de ceux à qui il les a faites? C'est parce que les promesses ici qui concernent le peuple d'Israël ont, pour la première fois, directement été données à Abraham, longtemps auparavant, leur ancêtre. Et je vous invite pour ça à faire un petit retour en arrière. Tournez avec moi dans Genèse 12. Donc, le livre précédent, le premier livre de la Bible, au chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, à ce moment-là, Abraham portait encore le nom Abraham, il dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça va être le thème de la semaine prochaine. Donc, on voit ici que Dieu promet, alors qu'Abraham est presque seul, il a seulement son entourage immédiat, Dieu le fait partir de chez lui, mais il promet, ta descendance sera très grande, elle formera un peuple très nombreux. Mais la descendance nombreuse d'Abraham, Abraham ne l'a pas vue. Ça a vraiment commencé au moment de son petit-fils, Jacob, dans la vie de Jacob. Parce qu'Abraham, on apprend qu'il a eu plusieurs fils, mais il en a eu un seul fils de la promesse, le seul fils légitime, son premier, unique, avec son épouse Sarah. Et c'est par lui seul que Dieu a promis la descendance nombreuse. Et finalement, Abraham est mort sans avoir vu encore cette descendance nombreuse. Mais Dieu a maintenu sa promesse. Et il l'a même répété à son fils, à Isaac. Si on va plus loin dans Genèse 26, chapitre 26, verset 3. Dieu s'adresse à Isaac, le fils d'Abraham. Au verset 3, chapitre 26, il lui dit, « Séjourne dans ce pays-ci. Je suis avec toi, je te bénirai, car c'est à toi et ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Et toutes les nations de la terre seront bénies, se diront bénies en ta descendance. » Donc, il rappelle la même promesse. « Ta descendance, Isaac, sera très nombreuse. Elle formera un peuple innombrable, aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Isaac a eu deux fils, Ésaü et Jacob. Mais Dieu a dit, c'est par Jacob que la promesse de la descendance du peuple de Dieu va passer. Et même après la mort d'Isaac, Dieu a maintenu sa promesse et il l'a répétée à Jacob. On va plus loin, deux chapitres plus loin, au chapitre 28. À ce moment-là, Isaac n'était pas encore mort, mais on voit Dieu qui rappelle sa promesse. Chapitre 28, verset 12. C'est alors que Jacob avait quitté le milieu, le noyau familial, il était parti en exil, et Dieu lui parle dans un rêve, dans une vision. Verset 12, il eut un rêve, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Et Dieu l'a protégé. Heureusement, le récit nous rapporte comment Dieu l'a protégé, Jacob, dans toutes ses péripéties. Et Dieu était avec lui partout où il est allé. Et à partir de Jacob, là, on voit le début d'un peuple. Jacob a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus. Donc, les 12 fils sont les pères des 12 tribus d'Israël. Et plus tard, même, Dieu a changé le nom de Jacob en celui d'Israël. C'est pour ça qu'on dit que les fils de Jacob sont les fils d'Israël, les Israélites. Donc, c'était le début d'un peuple. Et en tout, 70 personnes ont suivi Jacob, donc les fils, leurs épouses, jusqu'en Égypte. Une grande famille, mais c'était quand même encore bien peu pour être considéré comme une grande nation. Et lorsque Jacob et ses fils, sa famille, sont allés en Égypte, Joseph s'y trouvait déjà. L'un des 12 fils s'y trouvait déjà parce que ses frères étaient jaloux de lui, vous vous souvenez dans Genèse, jaloux au point où ils l'ont vendu à une caravane de marchands d'esclaves et il s'est retrouvé finalement esclave en Égypte. Mais Dieu a tourné le mal en bien. Il a montré que c'était son plan qui s'accomplissait. Et contre toute attente, contre toute probabilité, un esclave comme Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte, juste sous Pharaon. Et il dirigeait tout dans le pays. Et Dieu l'a béni. Et même Dieu a béni l'Égypte à travers Joseph. Par la sagesse qu'il lui a donnée, Joseph, par les commandements qu'il a donnés au peuple, a pu sauver l'Égypte d'une grande famine. Une famine de 7 ans. Et même, il a été une source de bénédiction pour les peuples autour qui ont pu être sauvés de la famine en venant acheter du blé. Il a rendu le pharaon très prospère et très puissant. Il a ramené tout le pouvoir qui était distribué en Égypte. Il l'a centralisé au pharaon. Ça a été vraiment un changement majeur en Égypte. Et par le fait même, on voyait le plan de Dieu qui s'accomplissait. Joseph a sauvé sa famille de la famine. Il a pu les faire venir en Égypte. Et ils ont pu avoir une terre dans le nord-est de l'Égypte, dans Goshen, où ils ont pu vivre en paix et grandir, s'accroître, sans nécessairement être mélangés avec les Égyptiens. On voit Dieu qui accomplissait sa promesse. C'était d'ailleurs le plan de Dieu, qu'ils s'accroissent comme peuple en Égypte. Et il l'avait dit à Abraham au chapitre 15, si vous avez le temps de tourner, verset 13, 15-13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils seront esclaves, on les maltraitera. Et pendant 400 ans, ils seront en Égypte. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Donc Dieu avait prévu qu'ils allaient s'accroître en Égypte, qu'ils allaient souffrir là, mais Dieu avait fixé un terme. Il avait prévu de les sortir de ce pays. Donc si on retourne dans Exode, Exode commence là où la Genèse avait terminé, en nous rappelant que Jacob est allé en Égypte avec la liste des fils, et en nous rappelant que Joseph était là aussi. Mais toute cette génération-là a fini par mourir. Mais Dieu était encore là. Même si ceux à qui Dieu avait rappelé les promesses étaient morts, et même depuis longtemps, Dieu maintenait encore ses promesses envers son peuple. Mais on aurait pu croire que Dieu allait oublier ses promesses. Ceux qui n'ont pas lu la Bible et qui s'imaginent comment Dieu est, on peut avoir une tendance, lorsqu'on n'a pas encore appris à connaître Dieu à travers la parole, à se faire un Dieu, à s'imaginer un Dieu qui est à notre image. On fait une promesse envers quelqu'un, mais si les circonstances changent, oh, ben là, c'est pas ma faute, les circonstances ont changé, je ne tiens plus ma promesse. Que ce soit de mon côté ou de son côté. Mais Dieu, lui, maintient ses promesses. Il est différent. Il a tenu sa promesse même après la mort des patriarches. Et même, il dit que le peuple a commencé à grandir et à s'accroître. Il est devenu de plus en plus puissant au point de remplir le pays même. Le contraste ici est frappant. Il part d'une famille de 70 et on voit quelques versets plus loin qu'ils sont tellement nombreux qu'ils font peur au Pharaon et aux Égyptiens. Donc, à la cour, ils discutaient entre eux, là, « Wow, les Israélites sont rendus plus nombreux que nous. » S'ils leur prenaient l'envie de sortir, qu'est-ce qu'on ferait? De se rebeller? Ou si on se faisait attaquer, si on était en temps de guerre, pourquoi ils prendraient notre défense? Ils pourraient se liguer à l'ennemi et en profiter soit pour nous attaquer ou pour fuir. En un sens, Dieu les a tellement bénis, les a tellement rendus puissants qu'il renversait un peu la condition humaine. On voit ici l'Exode, on va le voir tout au long de l'Exode, que Dieu est en train de renverser le malheur de l'humanité qu'on a vu dans la Genèse, parce que c'est une suite directe de la Genèse. Dieu, à l'origine, avait dit à l'homme, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Mais plus tard, l'homme a chuté. On a quand même populé sur la terre, mais l'homme a chuté, l'homme a péché. Et on voit ici, par les mots qui sont presque les mêmes, Israël fut fécond, ils proliférèrent, ils se multiplièrent, ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants. Que Dieu est en train d'intervenir dans l'histoire de l'humanité pour renverser la situation et rétablir la situation d'origine où la relation, le Dieu avec sa créature était parfaite, l'harmonie. Dieu est en train de procéder à une recréation. Et ça commence par le peuple d'Israël. Mais est-ce que ça veut dire, lorsque Dieu nous déclare qu'il accomplira avec certitude ses promesses, et il y a une foule de promesses qui nous sont faites à nous, même dans le Nouveau Testament, est-ce que ça veut dire qu'on ne connaîtra pas l'opposition? Est-ce que ça veut dire, est-ce que Dieu dit, puisque mes promesses vont s'accomplir assurément, il n'y aura même pas d'opposition, il n'y aura pas de rocher sur votre sentier? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il y a de l'opposition. Et on le voit ici, longtemps après, un nouveau pharaon est venu qu'à régner. Et lui, il ne se souvenait pas de Joseph. Il ne se souvenait pas de la dette, en fait, qu'il avait envers le peuple d'Israël. Il ne réalisait pas que s'il avait tout ce pouvoir en Égypte, c'était grâce à l'intervention, bien longtemps avant quand même, mais à l'intervention de Joseph et des Israélites. Donc, il n'était pas conscient du bien, parce qu'à l'époque, même le pharaon l'avait reconnu, le bien que Dieu avait fait pour sa nation. Lui, le nouveau pharaon n'avait plus conscience de cela, aucune reconnaissance envers Dieu, aucune reconnaissance envers Joseph. Il voyait plutôt le danger, la menace. Puis là, il met en œuvre une première solution. Il dit, on va les engager, on va en faire d'eux nos employés. Ils vont travailler pour nous. Et on apprend qu'ils ont fait de grands travaux. Ils ont même construit deux grandes villes, Pithom et Ramsès, qui étaient des villes d'approvisionnement. Et ça fait du sens, vu qu'ils étaient à la frontière d'Égypte, là où se transigeait tout le commerce. Donc, ils ont bâti de grandes villes pour les Égyptiens. Et le but, c'était de ralentir leur croissance. Mais plus ils leur donnaient du travail à faire, plus ils grandissaient, plus ils s'accroissaient. Mon Dieu, malgré l'opposition, c'est comme si Dieu répliquait, « Je bénis mon peuple davantage. » Au point où les Égyptiens l'ont vu, là, qu'il y avait quelque chose qui se passait, et se sont mis à détester les Israélites. Ils se sont mis à les haïr. Et ils les ont réduits, là, non seulement à la condition d'employés, mais à la condition d'esclaves. Le plus bas possible pour les humilier et les accabler. Être sûr que leurs travaux étaient très pénibles, qu'ils se fatiguent à l'ouvrage, qu'ils n'aient plus le temps de penser à faire des enfants. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont continué à se multiplier. Et leurs travaux étaient durs. Ils devaient prendre de l'argile, la faire cuire au soleil, mais mélanger de la paille à cela pour en faire des briques. Donc, c'est des travaux pénibles, physiques, endurants. Puis si les briques cuisaient au soleil, eux aussi ils cuisaient au soleil. Puis, en plus, c'était sous la pression des Égyptiens. Puis on va voir même au prochain chapitre à quel point c'était devenu une coche encore plus terrible. Mais c'est à ce moment-là où les Israélites, on peut dire qu'ils souffraient. Ils ont réalisé là, qu'ils n'étaient pas chez eux. Mais Dieu avait fixé un terme à cela. Et est-ce que les promesses de Dieu, le fait que Dieu garantit ses promesses, fait en sorte qu'il n'y aura pas d'opposition? On le voit ici, il y a de l'opposition. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent malgré l'opposition, malgré la souffrance que l'on vit. Et même Dieu, on le voit, c'est lui qui permet l'opposition. Même si ceux qui sont en opposition, ceux qui provoquent la persécution, les souffrances, ne s'en rendent pas compte, en réalité, ils sont en train de servir le plan de Dieu. Dieu, dans le fond, accomplit ses promesses, même en passant par la souffrance. Et dans bien des cas, c'est ce qui se produit. Et Jésus nous a annoncé que c'est comme ça que ça va se produire dans nos vies, qu'on allait souffrir comme lui, il a souffert. Mais c'est pour le bien. Et Dieu promet qu'il utilise toutes ces épreuves-là que l'on subit, que l'on vit, pour notre bien, pour nous rendre saints, nous faire ressembler à son Fils Jésus, et à apprendre à dépendre de lui, et à apprendre à le connaître son amour, connaître sa délivrance. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et le peuple ici continuait de croître malgré l'opposition. Et Dieu l'avait prédit. Il avait dit à Abraham, tes descendants seront des immigrants dans le pays qui ne sera pas le leur, ils seront esclaves. On les maltraitera. C'était la volonté de Dieu. Mais un jour, ils sortiront ensuite avec de grands biens. Dieu ne laisse pas aller les choses, il met un terme. Et l'heure, la seconde près, est déjà fixée pour la délivrance. Donc, les promesses de Dieu s'accomplissent assurément, même après la mort de ceux à qui il les avait faites d'abord. Et même s'il y a de grandes oppositions, de grandes souffrances, on peut être sûr que les promesses s'accomplissent. Est-ce qu'il y a des... Puisque c'est Dieu qui est souverain, dans le fond, et que c'est son plan qui s'accomplit, est-ce qu'il y a quand même des conséquences face à ceux qui s'opposent? Ou ceux qui contribueraient de manière positive? Est-ce que Dieu est souverain dans le sens de ne pas tenir compte des agissements des hommes? Non, au contraire. C'est un peu un paradoxe, mais Dieu est en contrôle de tout. Mais c'est très important comment les êtres humains agissent dans son plan. Et ceux qui s'y opposent subissent les conséquences. On va le voir plus loin, on ne voit pas dans le passage ici que le Pharaon, il ne sait pas, mais il est en train de s'opposer à Dieu en s'opposant au peuple d'Israël. Il y a des conséquences, et Dieu l'avait dit, on l'a lu un peu plus tôt, il l'avait annoncé à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. » Et ça demeure à perpétuité, cet engagement-là de la part de Dieu. Donc c'était non seulement en faveur d'Abraham, à l'époque d'Abraham, mais c'était aussi pour sa descendance, et c'était encore vrai à l'époque d'Israël, alors qu'ils étaient maltraités. Et le Pharaon, ici, s'attirait la malédiction de Dieu. On va voir comment Dieu va appliquer sa malédiction sur Pharaon. Et le Pharaon a augmenté encore d'un cran son attaque envers le peuple de Dieu. À partir du verset 15, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shiphra et l'autre Pua, et il leur dit, « Quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Ici, les deux femmes qui sont nommées, on comprend de toute évidence que c'est deux femmes qui sont responsables du groupe des sages-femmes. Ça m'étonnerait que ce soit seulement deux femmes qui étaient les sages-femmes pour tout le peuple. Elles étaient responsables, mais on voit le plan vraiment machiavélique du pharaon et c'est sournois. Dans le fond, ce qu'il leur dit, c'est faites-le même en douceur, sans, en cacheterie. Là. Arrangez-vous pour que lorsque le bébé naît, si vous vous rendez que c'est un garçon, vous l'étranglez, vous faites quoi que ce soit qu'il faut, trouvez un moyen pour qu'il meure. Peut-être en espérant que la mère ne sache pas, que ça puisse passer pour un temps comme une cause naturelle, mais on voit toute la cruauté du pharaon. Quel plan méchant! Il ne s'attaque pas seulement aux hommes matures de l'armée pour réduire les forces, peut-être, des Israélites. Il s'attaque à des êtres sans défense qui viennent de naître, innocents. Mais il présente ça sans aucun remords. Sûrement, ça ne l'empêchait pas de dormir. On voit la méchanceté, c'est tellement même caricatural, sa méchanceté, que ça nous rappelle, c'est encore un lien vers l'époque de la création, dans le jardin d'Éden, alors que Satan s'est présenté sous la forme d'un serpent et qui a été très méchant, qu'il paraissait comme gentil, vouloir réveiller la conscience d'Adam et Ève, mais c'était planifié qu'il tombe et qu'il soit brisé de la relation avec leur Créateur. Satan voulait que des enfants sans défense, innocents comme Adam et Ève, meurent. Et on voit ici, dans le fond, Pharaon, c'est comme si c'était un rappel encore à la création. Et Pharaon représente l'opposition à laquelle Dieu fait face. Donc, dans son plan, Dieu accomplit ses promesses, mais dans son plan, il a un combat à livrer contre le mal. Et Dieu est patient et il va selon les étapes qu'il a prévues, mais c'est un combat qui est rude. Et alors que Dieu produisait la vie, alors que Dieu permettait d'une grande naissance, c'est un symbole fort, le Pharaon s'attaque directement là. Il s'attaque à réduire le nombre de naissances. Il s'attaque à produire la mort. C'est un autre détail qui montre que Dieu est en train, il nous rappelle que Dieu est en train de faire une recréation, de bouleverser le monde pour le ramener comme à la situation d'origine où il avait une pleine harmonie avec sa créature. Heureusement, les sages-femmes ici n'ont pas obéi au Pharaon. Leur crainte de Dieu était plus grande que la crainte de Pharaon. Pourtant, leur crainte de Pharaon devait être quand même assez grande. Elles risquaient leur vie, elles risquaient l'emprisonnement, mais sûrement elles pouvaient mourir. Mais leur crainte de Dieu était encore plus grande. Elles n'ont pas hésité à protéger les bébés hébreux. D'une certaine manière, on voit que Dieu s'est révélé à elles. Comment elles ont eu cette crainte de Dieu-là, alors qu'on n'a aucune indication que le peuple d'Israël adorait ouvertement l'Éternel? On ne sait pas trop, c'est l'inconnu de ce côté-là, mais on voit des femmes, sages-femmes, qui ont une crainte de Dieu et qui agissent pour Dieu. Ce n'est pas évident ici de savoir si les sages-femmes sont des Israélites ou des Égyptiennes. Je ne sais pas si de manière naturelle, de quel côté vous penchez. Plusieurs évangéliques croient qu'il s'agit d'Israélites à cause de l'expression des sages-femmes des Hébreux. Mais on pourrait comprendre par cette expression-là que c'était des sages-femmes qui étaient particulièrement attitrées à prendre soin des femmes hébreues. Aussi, elles ont des noms hébreux, Shifra et Pua. Mais il y a plusieurs preuves qui démontrent que beaucoup de femmes égyptiennes portaient des noms qui sonnaient hébreux. On se souvient de la servante de Sarah, Agar, c'est un nom typiquement hébreu. Pourtant, elle était égyptienne. Elle craignait Dieu. Certains vont dire, bon, on a une preuve ici que c'est des Hébreux. Mais ce n'est pas montré comme étant une chose naturelle, elle craignait Dieu, non. C'est montré comme étant quelque chose d'exceptionnel. Et le pharaon n'avait aucune idée qu'elle craignait Dieu. Sinon, il n'aurait pas demandé à elle. Je crois plutôt qu'il s'agissait d'Égyptiennes. Et quand il leur dit, lorsque vous accoucherez des femmes hébreues, ça veut dire que parfois, ils accouchaient aussi des femmes égyptiennes. Ça serait étonnant que des Hébreux aident à accoucher des femmes égyptiennes. Ils étaient vus à des rangs vraiment différents. Et comment le pharaon aurait pu espérer que les sages-femmes lui auraient obéi si c'était des Hébreux, des Israélites. Ça fait pas de sens. Il avait demandé à des gens de son propre peuple qui savaient qu'il détestait les Hébreux, les Israélites. Et lorsque les sages-femmes reviennent en lui donnant cette excuse pour ne pas avoir obéi, il les croit. Mais je pense qu'il aurait eu de plus grands soupçons si c'était des femmes parmi les Hébreux. Mais là, il les croit. Et même, elles prospèrent. Donc, les femmes ont, ici, elles ont clairement déjoué le pharaon. Elles se sont fait passer comme étant de son côté, d'acquiescer à ses ordres, mais elles ne lui ont pas obéi. On peut se demander si elles ont menti. Il y a peut-être une part de vérité dans ce qu'elles ont dit, que les femmes hébreues étaient plus fortes et elles accouchaient plus rapidement. Parce qu'on voit que Dieu avait béni, et il y avait sûrement moins de bébés morts à la naissance, et ils se multipliaient. Mais c'est sûr qu'elles devaient prendre un café avant d'aller, là. Elles attendaient. Mais ça, elles l'ont pas dit, là. Elles s'arrangeaient pour arriver une fois que la naissance était terminée. Si leur histoire est vraie, là. Mais ici, le texte ne met pas l'emphase sur leur mensonge. On n'est pas là pour juger vraiment de la manière qu'elles ont utilisée, mais plutôt de leur intention. C'est qu'elles ont craint Dieu plutôt que d'avoir craint le pharaon. Et par leur action courageuse, le peuple a continué de grandir. Dieu n'avait pas nécessairement besoin des sages-femmes, mais elles ont contribué à son plan. Et par leur action, le peuple a continué à s'accroître. Elles ont été bénies par Dieu. Et même le simple fait qu'on voit leur nom ici, Shifra et Pua, leur nom est passé à l'histoire. Et c'est très important, ça, dans la pensée biblique. Leur nom n'a pas été effacé. On le lit encore aujourd'hui, des millénaires plus tard. Elles ont été grandement honorées. Elles le sont encore. Et ça rappelle la promesse de Dieu. « Je bénirai ceux qui te béniront. » On peut se demander, est-ce qu'il est permis de mentir ou pas, suivant leur exemple? Ce qui est clair dans le Nouveau Testament, notre standard de moralité fixé par Jésus est au niveau le plus haut. Mentir, on n'a pas d'excuse. Par contre, c'est clairement dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres le rappellent. Et parfois, il arrive qu'on doit faire même des choses illégales ou aller contre une autorité du monde qui nous dirait, soit qui nous refuserait un devoir qu'on a envers Dieu ou qui nous obligerait à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. On n'a pas le choix à ce moment-là. On n'est pas obligé d'aller se dénoncer pour dévoiler l'endroit secret où une église clandestine se réunit. Il y a une différence. Donc, on peut voir que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, en qui on peut avoir confiance. Les promesses de Dieu s'accomplissent, et même après la mort de ceux à qui il les a accomplis. C'est parce que pour Dieu, même lorsqu'Abraham est mort, il continuait d'exister. Dieu est le Dieu des vivants. Il est encore le Dieu d'Israël, encore le Dieu de Jacob. Dieu continue. Dieu a une vision de l'histoire humaine qui nous dépasse. Nous, on voit pas loin en avant de notre nez, là. Et il nous semble que le jour de notre mort, le monde arrête. Mais Dieu, lui, il voit tout cela. Il maintient ses promesses, même au-delà de la mort. Et Dieu peut permettre même l'opposition, la souffrance. Mais c'est son plan qui s'accomplit. Mais ça n'enlève rien à la responsabilité de tout être humain face au plan de Dieu. Est-ce que nous agissons en fonction du plan de Dieu? Est-ce que nous contribuons à l'accomplissement de ses promesses? Ou nous nous opposons à l'accomplissement de ses promesses? Et ça peut être autant dans notre vie personnelle que dans notre relation avec nos frères et sœurs, que dans notre relation avec les gens du monde. Est-ce que nous contribuons à l'avancement du royaume de Dieu ou non? Et Dieu est un Dieu de parole, et il veut nous enjoindre à cela. Et on va le voir dans le livre d'Exode que un grand thème qui revient sur le caractère de Dieu, c'est qu'il est saint. Et il demande à son peuple, il nous demande d'être saints. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel Dieu, votre Dieu. Donc, le caractère de Dieu qui est révélé ici, c'est qu'il tient sa parole. Et c'est évident. Mais Dieu nous révèle ça, pas seulement pour qu'on apprenne à le connaître, mais pour qu'on lui ressemble aussi. Dieu nous demande d'être des gens qui tiennent parole, d'être des gens qui respectent leurs promesses. Jésus le rappelle, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Lorsque vous vous engagez, tenez parole, respectez vos engagements, comme si vous les aviez faits à Dieu. Et le Nouveau Testament nous révèle quelque chose d'extraordinaire par rapport aux promesses d'Abraham, et on termine là-dessus. Parce qu'on pourrait dire, mais ça, les promesses d'Abraham, ça concerne le peuple d'Israël. Est-ce que je suis concerné? Ou on apprend à connaître Dieu, là, mais est-ce que je suis directement concerné? Mais à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on nous dit que oui, on est concerné directement. Entre autres, dans Galates, chapitre 3, verset 7. « Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi, nous disons avoir la foi, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, c'est-à-dire nous, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que tous ceux qui ont la foi sont bénis en Abraham, le croyant. » Il dit au verset 14, toujours dans Galates 3, « Pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. » Jésus est un descendant directement d'Abraham, mais en Jésus, la porte est ouverte à tous ceux qui ont la foi et ils sont greffés au peuple. Verset 29, il dit, « Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, les héritiers selon la promesse. » Les promesses faites à Abraham s'appliquent à nous, s'appliquent maintenant aussi à l'Église. Ce qui s'est passé au temps d'Exode nous concerne. L'Église va continuer de s'agrandir. Parce que Jésus l'a dit, parce que Dieu l'a déclaré, mais aussi sur la base de la promesse faite à Abraham, d'un peuple nombreux. Dieu a dit à Paul un jour qu'il était découragé, dans Actes 18, « Sois sans crainte, mais parle, ne te tais pas. Je suis avec toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et c'était un exemple, parce qu'on sait que Dieu a un peuple nombreux dans toutes les nations. Il dit dans Matthieu 24, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, soyons sûrs que la promesse de Dieu, que l'Église va continuer de s'accroître, elle va tenir, malgré les attaques directes de l'ennemi contre l'Église, les attaques qu'on a vues à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Mais l'Église continue de s'accroître. Et Dieu accomplit sa promesse malgré l'opposition. Jésus dit, dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Même la mort n'arrête pas cela. Et ceux qui s'y opposent paieront la conséquence. Déjà, ceux qui s'opposent à l'Église ouvertement dans le monde, plusieurs payent, mais sinon, tous paieront un jour, au jour du jugement. Et Dieu récompense aussi ceux qui agissent en faveur de l'Église. Et les nations qui donnent des droits même aux chrétiens. Ici, on est béni au Canada, mais on peut voir aussi que le Canada est béni. Et on peut voir une certaine corrélation. Les pays qui permettent, qui font du bien aux chrétiens, sont souvent bénis. Mais la plus grande bénédiction que Dieu peut faire à quelqu'un qui se montre bienveillant envers l'Église, c'est de le greffer à l'Église, de l'ajouter à l'Église, de lui faire cette même révélation qu'il a fait aux sages-femmes, de se faire connaître à lui pour qu'il craigne Dieu. La plus grande bénédiction que Dieu fait, c'est de les faire entrer dans la descendance d'Abraham. Donc, ça va directement dans la promesse de faire grandir son peuple. Mettons notre confiance dans les promesses de Dieu. Il les accomplira toutes. Et il y en a une foule. Il y en a des centaines de promesses de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais elles pointent beaucoup à un bonheur sur cette terre de connaître Dieu, un bonheur qui est grandissant, mais un bonheur ultime qui est dans les lieux célestes. Dans 1 Jean, Jésus dit, « Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors que les justes paraissent souvent ternes aux yeux du monde, misérables à la condition d'esclaves aux yeux des gens. Et Jésus promet dans Matthieu 13, « Alors, à la fin des temps, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » C'est une promesse à laquelle on peut compter. Et même lorsqu'on vit la souffrance d'avoir un deuil parmi nous, ou même lorsqu'on est soi-même face à la mort, et qu'on ne connaît pas le jour de notre mort, mais lorsqu'on le voit s'approcher, on peut avoir une inquiétude. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, c'est Dieu lui, qui nous parle ici, par son Saint-Esprit. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, avec lui, ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi,